Avant de commencer, je vais prier. Je vous invite à la prière. Notre bon Père Céleste, merci pour ta parole. Merci de ce que nous pouvons bâtir nos vies sur ta parole, sur tes promesses, qui sont fidèles et sûres. Merci en effet de ce que tu es un Dieu qui parle, qui se révèle, qui révèle les mystères. Merci de ce que tu es vivant et de ce que tu règnes. Et notre Père, nous voulons te demander ce matin de nous parler par ton esprit. Applique cette parole à nos cœurs pour que nous puissions te connaître davantage, te voir davantage, t'aimer davantage, te suivre plus fidèlement. Nous avons besoin de ta parole ce matin. Et Père, j'aimerais te demander de m'aider à l'annoncer, l'expliquer fidèlement, avec clarté, avec humilité. Nous avons besoin de ton aide ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. À la suite de ces attentats la semaine dernière, nous avons vu plusieurs choses cette semaine. D'abord, dimanche dernier, il y a eu cette grande manifestation dans Paris. Le président entouré de responsables politiques du monde entier. C'est une vraie démonstration de force, de puissance, d'unité. Au Parlement, dans la semaine, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a réitéré l'importance de l'éducation des enfants dans la réponse à ce fanatisme islamiste. Alors j'évoque toutes ces choses-là, non pas tellement pour commenter ce qui se fait, mais pour mettre en relief deux thèmes qu'on va voir ce matin, les thèmes du pouvoir, la puissance, et le thème de la connaissance, la sagesse. Et ces deux thèmes sont les fondements quasiment de chaque société. La connaissance et la puissance sont toujours très liés. Celui qui sait, celui qui a la science, celui qui a la connaissance a souvent le pouvoir. Et tout système de pouvoir, si vous restez bien en place, a besoin de savoir ce qui se passe, d'être au courant de ce qui se passe. Il doit avoir ses renseignements généraux. Il règne aussi, il tient le pouvoir aussi par la connaissance, par l'éducation, par les idées. Et ça, on l'a vu la semaine dernière, dans Daniel chapitre 1. Pour faire asseoir son pouvoir, pour faire asseoir sa victoire militaire totale, le roi babylonien, Nebuchadnezzar, a inculqué ses valeurs, les valeurs de son état païen, à la jeunesse venue de Juda. Daniel et ses amis, qui faisaient partie de l'élite, cette élite qui avait été exilée en l'an 605 avant Jésus-Christ à Babylone, ont été formés pour servir le roi. Mais comme nous avons vu, tout en servant ce roi païen, Daniel et ses amis sont restés fidèles à l'Éternel. Parce que Daniel avait décidé de manière ferme, de manière résolue dans son cœur, de servir le vrai Dieu, le vrai roi, l'Éternel. Et ce matin, nous allons retrouver Daniel, ce fonctionnaire israélite fidèle, à la cour du roi païen. Et par lui, par ces événements, on va voir, encore une fois, que son Dieu, notre Dieu, règne. Nous allons voir que son Dieu, notre Dieu, sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Et il règne partout. Et la connaissance de notre Dieu qui sait tout et qui règne partout est vraiment d'une grande consolation pour son peuple. Son peuple qui est souvent si faible, souvent si opprimé, méprisé, en situation de faiblesse. Alors ce matin, nous allons voir deux choses. La faiblesse de la connaissance humaine et ensuite la faiblesse de la puissance humaine. On va voir ce premier point et on va lire la première moitié de Daniel chapitre 2. Et lorsqu'on fait le deuxième point, on va lire la deuxième moitié du chapitre. C'est une lecture assez longue. Donc je vous invite à cette lecture. Verset 1. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la deuxième fois, « Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi dites-moi quel était le rêve, et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé. Il en recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjok, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjok, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjok exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michel et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant, « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Alors, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, donc on a commencé cette série dans Daniel. Et dans les semaines qui viennent, on va enquêter sur la pertinence de ce récit vieux de 2600 ans. 2600 ans. Et ça pour notre vie chrétienne ici en Occident, au 21e siècle. Alors, ce récit a été écrit par Daniel, un exilé juif, 6 siècles avant Jésus-Christ. Il l'a écrit à Babylone, au cœur de l'Empire. Donc, Babylone se trouve pas ici, sur la carte. Et Babylone, la Babylonie, était vraiment la superpuissance de l'époque. C'était leur moment de gloire dans l'histoire. C'était l'Empire néo-babylonien. Et cette carte nous montre l'étendue de l'Empire. Alors, notre récit commence avec l'angoisse du roi Nebuchadnezzar. Verset 1, la deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Quand bien même ce roi est puissant, il est profondément troublé. Il ne dort plus. Ce qu'il a vu dans ce rêve l'a déstabilisé, l'a fragilisé sur le plan psychologique. Et on voit tout au début de ce chapitre combien ce roi puissant est faible. Verset 2, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres. Il veut savoir l'interprétation de ce rêve. Il veut retrouver la paix. Il veut dormir. Et ce qui suit nous montre que vraiment ce roi n'est pas en paix. Son cœur est tyrannique. Si ces magiciens ne lui révèlent pas, ne lui disent pas ce qu'il a vu dans le rêve, il va les mettre en pièces. Il va détruire leur maison. C'est à eux de deviner ce qu'il a vu. Et bien sûr, de manière compréhensible, ces magiciens sont hors d'eux. Ça ne se fait pas. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça s'ils ne connaissent pas le rêve? Ça, c'est un peu comme si un prof aujourd'hui demandait à ses étudiants de répondre aux questions dans un examen, aux questions qui n'allaient pas leur donner à l'avance. Ils diraient bien sûr que ça relève de la folie. Alors, dans la première moitié de ce qu'on vient de lire, c'est vraiment le verset 11 qui est clé. C'est les magiciens qui parlent et ils disent « Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » En fait, ces magiciens, ces prêtres païens, reconnaissent leur incapacité de faire ce que le roi demande, c'est-à-dire de dévoiler ce rêve, de faire savoir ce que le roi a vu. Et Daniel veut que ses lecteurs, Daniel veut que nous reconnaissions que cette foi païenne, la foi des Babyloniens, est une foi sans fondement. Une foi qui finalement d'une faiblesse extraordinaire, que leur foi a finalement fait faillite. Elle a fait faillite parce qu'elle est ignorante. Elle n'a pas de connaissance. Elle ne peut pas révéler ce rêve. Elle est séparée de la connaissance divine. Elle a fait faillite. Le verset 12 nous montre l'hystérie de ce roi qui est un peu condamné à ne pas savoir l'explication de son rêve. Il est dans l'angoisse. Il est en colère. Et on voit qu'il donne ce décret de mettre à mort tous les sages, y compris notre héros, Daniel, et ses amis. Et c'est au verset 14 que nous retrouvons notre ami Daniel. Et face à ce décret terrible, face à l'hystérie de ce roi en colère, on retrouve sa foi calme, patiente, claire, confiante. Mais en quelque sorte, ça ne nous surprend pas parce que c'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière au chapitre 1. Daniel était animé d'une foi, d'une conviction que même en terre étrangère, même à Babylone, l'Éternel, le Dieu d'Israël, règne. Il est présent et il règne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? On voit qu'il s'est renseigné calmement, avec tact. Et ensuite, il va voir le roi. Il a accès au roi. Il lui demande de lui accorder un peu plus de temps. Et ensuite, avec ses amis, il prie. Il remet tout entre les mains du Seigneur. Il implore la compassion du Dieu vivant. Et on voit bien sûr dans la suite que Dieu y a répondu favorablement. Alors, Daniel n'a pas précipité tout de suite pour aller voir le roi. Il y a un moment de patience. Je pense que souvent, lorsque on a une réponse à la prière, on oublie Dieu. On oublie de le remercier. Mais Daniel prend le temps. Il prend le temps avec ses amis de remercier le Seigneur et de le louer. Et vraiment, les versets 20 à 23 forment le cœur de ce chapitre. Vraiment, Daniel veut braquer les pleins phares sur Dieu, sur qui il est, sur sa nature, sur ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Parce que c'est lui, Dieu, le héros à Babylone. Il est le Dieu de sagesse et de pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on voit au verset 20. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse, la connaissance et la force, la puissance. Et le verset 21 nous montre ce que nous allons voir tout à l'heure. Dieu est complètement souverain. C'est lui qui renverse, c'est lui qui établit les rois. C'est lui qui donne de la connaissance, la sagesse à ceux qui sont sages. Et il peut le faire parce que verset 22, c'est lui, l'Éternel, qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché. C'est lui, l'Éternel, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. On voit que le Dieu de Daniel est un Dieu qui parle, un Dieu qui révèle ce qui est dans les ténèbres, ce qui est enfoui, ce qui est caché. Il fait éclater sa lumière, lui qui est lumière. Et en expliquant, en dévoilant ce mystère, le rêve de Nebuchadnezzar, le Dieu vivant et vrai, le Dieu du ciel, dévoile la faillite totale du paganisme. Il est incapable de dévoiler quoi que ce soit. Il est muet, car son Dieu ne parle pas. Son Dieu ne révèle pas ses mystères. Mais Daniel, lui, il est dans la joie parce que le Dieu de ses ancêtres est vivant. Et il parle. Nous avons dit la semaine dernière que le récit de Daniel est vraiment d'une grande pertinence pour nous au XXIe siècle en Occident, parce que nous aussi, nous sommes des croyants qui vivent en terre étrangère. Nous sommes dans l'attente du royaume de Dieu. Et en attendant, nous vivons dans une société profondément païenne, une société qui ne reconnaît pas la seigneurie du roi, de Jésus-Christ. Nous vivons dans une société occidentale qui se veut savante, éclairée, instruite, puissante, mais qui refuse en même temps la possibilité d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui a parlé. Selon elle, toute connaissance, si elle veut être sûre, doit venir plutôt de l'intérieur. C'est-à-dire, elle doit être bâtie sur ce que nous pouvons voir nous-mêmes, sur ce que nous pouvons tester nous-mêmes avec notre propre intelligence. C'est finalement l'homme qui est au centre de cette connaissance humaniste. L'idée que Dieu serait au centre de la connaissance, que ce serait Dieu qui a toute connaissance, est quelque chose qui est proprement anathème pour notre société. l'idée que Dieu a parlé, l'idée que Dieu, selon laquelle Dieu s'est révélé, ça c'est quelque chose à exclure, parce que de telles idées relèveraient de l'obscurantisme, relèveraient des ténèbres. Et la foi chrétienne est souvent rejetée comme étant une simple religion, comme relevant purement du domaine de l'opinion privée. Elle n'aurait rien à dire sur la place publique ou dans l'académie. Pourtant, on peut discuter sérieusement de la fiabilité des manuscrits, l'origine ou l'expérience du mal, ou de la logique historique de la résurrection de Jésus-Christ, la plausibilité historique saisissante de cette résurrection qui, si elle est vraie, on croit qu'elle est bien vraie, change tout. L'idéologie humaniste athée de l'Occident n'arrive pas, en revanche, à expliquer, à parler du sens de la vie. Elle est muette. Elle peine à avoir de base sûre pour dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. En quelque sorte, elle vit simplement des acquis du christianisme. Elle peine à établir une philosophie de la connaissance de ce qui est objectivement vrai, ce qui est objectivement faux. Finalement, tout serait relatif. Cette idéologie humaniste athée est finalement muette. Elle n'arrive même pas à mettre en doute la certitude de ses doutes. Et elle se trouve en position de faillite morale. Et pourtant, elle ne lâche rien. Parce qu'il y va de son pouvoir qui est à asseoir, on l'a vu la semaine dernière à Babylone. Rien n'est neutre. En tant que croyant en Jésus, nous pouvons parfois avoir l'impression que la foi est méprisée, que la connaissance, notre connaissance, serait simplement obscurantiste, inacceptable, immorale parfois, et du coup à exclure. Alors Daniel ne nous invite pas à devenir amer ou critique ou à nous retirer de la société. Daniel nous explique que c'est normal. C'est normal, tout simplement. Lorsqu'on vit à Babylone, c'est normal d'être entouré de païens. De païens qui n'ont pas accès à ce Dieu qui parle, qui a parlé. Et comme Daniel, juste dans le calme, dans la confiance, nous, on peut nous adresser au Dieu qui a parlé, qui s'est fait connaître. Qui s'est fait connaître de manière ultime, de manière définitive en Jésus-Christ. Ce Jésus qui a dit qu'il est la lumière du monde. Ce Jésus qui a révélé le Père, la bonté du Père, la justice du Père, l'amour du Père. Par lui, on peut savoir pourquoi la vie existe. Pourquoi et pour qui nous existons. Nous pouvons savoir ce qui lui plaît. Ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous pouvons avoir une connaissance de ce qui est vrai et de ce qui est faux, parce que tout ne serait pas relatif. Tout n'est pas juste une question d'avis personnel de beaucoup d'hommes, chacun avec sa vérité. Mais non, il y a un Dieu qui est le garant, le socle de notre connaissance, parce que c'est lui qui dit ce qui est vrai et ce qui est faux. On peut bâtir nos vies sur lui. On peut savoir des choses. Nous vivons dans une société profondément païenne, mais nous, nous connaissons le Dieu qui a parlé. Nous connaissons le Dieu qui sait, qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il choisit de révéler tout ce qui est dans ces ténèbres. Il y a bien des mystères. Pourquoi cette tragédie? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ce cancer? Et on n'a pas toujours des réponses. Mais en même temps, nous savons que notre Dieu sait. Il sait ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière réside auprès de lui. Et ça, je pense que dans notre faiblesse, c'est d'une grande consolation pour nous. On va revenir aux détails de ce texte et aux rêves que Daniel va dévoilé, qui va expliquer. Nous sommes à notre deuxième point ce matin, la faiblesse de la puissance humaine. Et on va lire la suite du passage, donc je vous invite à retrouver le verset 24 et on va lire la fin de ce chapitre. Après cela, Daniel alla trouver Arioc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. » Arioc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication due au roi. » Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Daniel fit cette réponse devant le roi. « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu es regardé et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent. Son ventre et ses cuisses en bronze. Ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel est-il le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois. Parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien. Puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile, de potier en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre. De même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin. tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage par terre, contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Aussi, la première moitié de ce chapitre a mis en évidence le fait que Dieu sait toutes choses et peut révéler toutes choses. Cette deuxième moitié, un peu par cette révélation, nous montre que Dieu est le souverain absolu. Dieu, il est le souverain absolu. Et la puissance des hommes est vraiment bien limitée. Au verset 28, Daniel met en évidence une deuxième fois la faillite du paganisme de Babylone. Et ensuite, il dit qu'il y a un Dieu dans le ciel qui dévoile les secrets. Et à la fin du passage, Nebuchadnezzar tombe le visage contre terre et se prosterne devant Daniel. C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il reconnaît que c'est Dieu, l'Éternel, qui est aux commandes, qui tient toutes les manettes. Lui, Nebuchadnezzar, est troublé, il est faible. Mais dans sa grâce, Dieu choisit de lui révéler l'avenir, de lui révéler ce qui est dans les ténèbres. Et ce qui lui explique n'est pas vraiment un plat très digérable pour les rois humains. Alors c'est certes un peu flatteur pour Nebuchadnezzar parce que son royaume, c'est le royaume en or. Mais comme on voit, tous ces royaumes vont tomber. La statue va être complètement anéantie. Et si on apprend que c'est lui qui a ce royaume en or, c'est seulement parce que Dieu, le Dieu de Daniel, le lui a donné. Finalement, sa puissance est bien limitée, simplement déléguée par l'Éternel. C'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu, celui qui a fixé les limites. Même les deux petits mots au début du verset 39 nous le montrent « après toi ». Donc ça veut dire qu'il va y avoir une fin. Le régime de Nebuchadnezzar va terminer, va disparaître. Ce rêve a pour but de réduire la stature de Nebuchadnezzar. S'il est le roi, c'est simplement grâce au Dieu de Daniel. Et quand le Dieu de Daniel aura terminé avec lui, bah, il passera à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une pensée bien rassurante pour les chrétiens aujourd'hui. Il y a plein de régimes au monde qui sont décidément anti-chrétiens. Pensez à la Corée du Nord, à l'Arabie Saoudite, l'Asie centrale aussi, peut-être d'une autre manière, nos régimes aussi en Occident. Mais nos présidents, les présidents du monde, viennent et s'en vont. Certes, sur le moment, ça peut être très difficile à vivre, mais il faut qu'on sache, il faut qu'on n'oublie pas que, in fine, à la fin, c'est Dieu qui tient toutes les manettes. C'est lui qui est aux commandes. Et ça, en dépit de l'orgueil extravagant de ces responsables qui tiennent le pouvoir. Alors, le rêve de Nebuchadnezzar parle de cinq royaumes. Le premier, c'est celui de Babylone, ça c'est clair. Le suivant, en argent, et selon les commentateurs, peut-être celui des Mèdes et des Perses, on va voir ça à la fin du livre, Cyrus, comme on l'a vu la semaine dernière. Le troisième royaume en bronze serait peut-être celui des Grecs, Alexandre le Grand, par exemple. Et le quatrième pourrait être celui des Romains, avec tous ces légionnaires, la force de Rome, cet empire de fer, divisé quand même. En tout cas, Daniel ne passe pas beaucoup de temps sur ces détails, parce que le but n'est pas vraiment d'identifier ces royaumes. En fait, il veut qu'on voit que tous ces royaumes vont tomber, parce que la puissance humaine est limitée. Et c'est vrai, chaque empire humain tombe. On a vu ça au siècle dernier, les empires coloniaux qui régnaient un peu partout dans le monde sont tombés. On a vu aussi la fin du communisme. Et de plus en plus, ici en Occident, il y a ce sentiment de fin d'empire aussi. En tout cas, ce qui est très clair dans ce passage, et là Daniel passe beaucoup de temps là-dessus, c'est que la fin de chacun de ces empires est due à un petit rocher, à l'arrivée de ce petit rocher. Ce rocher est tout petit, mais enfin, à la fin, il va remplir toute la terre comme une grande montagne gigantesque. On voit que ce rocher vient de Dieu. Il n'est pas un royaume humain. Le royaume qu'il représente ne sera jamais détruit. Il va subsister éternellement. Et c'est lui qui va détruire tous les autres royaumes, tous ces royaumes orgueilleux qui s'opposent à Dieu. Le thème du royaume de Dieu est un des thèmes majeurs de toute la Bible. La Bible commence avec le règne de Dieu dans le jardin d'Éden, avec sa parole bafouée. Elle termine avec le règne de Dieu dans la nouvelle création. Là, au centre de cette nouvelle création, il y a un trône. Le trône de Dieu et l'agneau. Parce qu'au fond, c'est Dieu, le règne de Dieu, le royaume de Dieu qui va avoir la victoire sur le royaume des hommes, orgueilleux, ce royaume usurpateur qui veut mettre à bas le royaume de Dieu. Le verset 24 nous donne l'impression que ce royaume de Dieu, instauré par Dieu, est là tout au long de ces royaumes humains. Mais il vient quand même en particulier lors du quatrième royaume, celui qui est peut-être celui des Romains. Ce qui rime bien avec ce qu'on voit dans les évangiles. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé sur le devant de la scène, au début de son ministère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le royaume de Dieu s'est approché. C'est lui le roi de ce royaume de Dieu. On va le voir aussi au chapitre 7 de Daniel. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle d'un mystère dévoilé, c'est-à-dire le mystère de Jésus, en qui Dieu réunit toutes choses, tout ce qui est dans le ciel comme sur la terre. C'est Jésus le roi. Mais son règne s'impose de manière assez étrange. Les Juifs s'attendaient à ce que le Messie s'impose de manière militaire, qui chasse l'armée romaine, peut-être ce quatrième empire. Même jusqu'au dernier moment, les disciples de Jésus cherchent, ils voulaient savoir quand le royaume d'Israël, quand le royaume allait être restitué à Israël. Mais comment est-ce que ce rocher a détruit l'orgueil de ces royaumes humains sur la terre? En fait, la puissance de Dieu se voit dans la faiblesse. Et la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, se manifeste dans ce qui semble être la folie. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle de la croix dans 1 Corinthiens. Parce que c'est à la croix que, dans la faiblesse, Dieu vainc puissamment le mal. Il le fait en satisfaisant lui-même sa propre justice. C'est ainsi qu'il libère les hommes et les femmes pécheurs de la condamnation qu'ils méritent. C'est là, à la croix, qu'on voit toute sa sagesse. Jésus est là aux mains d'hommes et de femmes orgueilleux qui sont hostiles à Dieu. Mais au même moment, Dieu a pourvu pour leur réconciliation avec lui. Alors ce rocher est tout petit au début. L'Église était toute petite. Juste un petit groupe d'hommes et de femmes, peureux, anxieux, dans une maison à Jérusalem. Et Jésus, ressuscité, assis à la droite du Père, a déversé sur eux le Saint-Esprit. Et l'Église a pris vie. Et dans la faiblesse, faisant face à la persécution, les apôtres ont prêché le royaume, la parole du royaume, la parole concernant le roi crucifié et ressuscité. Et petit à petit, beaucoup de gens ont fléchi le genou devant le Seigneur Jésus. Et cette même parole continue d'aller de l'avant aujourd'hui, dans la faiblesse, méprisée. Mais pourtant, le royaume grandit. Il remplit la terre. Et le désir de chaque chrétien, c'est de voir venir ce royaume. C'est notre prière. Que ton règne vienne. Viens, Seigneur Jésus, viens. Alors, le monde qui nous entoure nous trouble parfois. Il nous fait peur. Pour certains, le quotidien est franchement un cauchemar. Comment est-ce que ces chrétiens en Corée du Nord, au Nigeria, comment est-ce qu'ils continuent à faire confiance au Seigneur? Comment est-ce qu'ils gardent la foi? Comment est-ce que Daniel a gardé la foi? Comment est-ce que nous allons garder la foi? On vit dans cette société avec cette idéologie régnante qui écarte la connaissance de Dieu. Comme Daniel, comme nos frères et sœurs, dans ces pays où c'est très difficile de vivre la foi chrétienne, nous avons besoin de regarder à la croix. Nous avons besoin de regarder à ce tombeau vide et de réaliser que notre Dieu règne, que Jésus règne. Et que son royaume est quand même en train de grandir. Il est en train de remplir toute la terre. Et du coup, toutes les idéologies humaines, toutes les pensées humaines, toutes les religions humaines, toutes les philosophies humaines qui s'opposent à la seigneurie de Jésus vont faire comme Nebuchadnezzar. Elles vont tomber le visage contre terre et elles vont reconnaître que finalement c'est notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, parce qu'il dévoile les secrets. Et nous, on connaît ces secrets. On connaît le mystère. Il a parlé. Dieu a parlé. Dieu est venu. Jésus est venu pour parler. On contemple ce mystère glorieux en venant au pied de la croix. On voit sa force, sa puissance dans la faiblesse. On voit sa sagesse dans ce qui semble être la folie. Et c'est aussi le modèle que nous avons à suivre. Nous sommes conscients de notre propre faiblesse aux yeux de la société. Notre foi semble être une folie pour ceux qui se croient éclairés, libérés de tout dogme religieux. Mais nous savons que notre Dieu règne. Notre Dieu a parlé. Il s'est révélé. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Et du coup, on peut vivre notre foi calmement. On peut venir lui remettre nos soucis dans la prière. Nous pouvons chanter avec Daniel « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché. » Qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, on vit dans un monde qui semble bien ténébreux, difficile. On vit en terre étrangère, dans une société païenne, qui ne reconnaît pas ta seigneurie, la seigneurie de ton Fils. Mais notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu as parlé, de ce que tu t'es révélé en Jésus. Nous avons vu ta force, ta puissance dans la faiblesse. Nous avons vu ta sagesse dans ce qui semble être la folie pour les hommes. Et notre Père, nous voulons te louer. Nous voulons déclarer combien tu es bon. Et Père, nous voulons te demander de nous aider cette semaine à vivre pour toi, en terre étrangère. Aide-nous à chanter le cantique de l'Éternel en terre étrangère. Aide-nous à déclarer avec fierté ce que tu as fait. Le mystère de la croix, le mystère de Jésus-Christ. Un monde qui a besoin, comme Nebuchadnezzar, de savoir que tu es là et que tu règnes. Nous te demandons de nous donner ce courage, le courage dont nous avons besoin. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.